On a vu dans le schéma des acteurs qu'il y avait uniquement un prof référent. Est-ce qu'il y avait d'autres enseignants ou justement juste un prof référent ?
Non, il n'y a pas d'enseignants qui participent au point hebdomadaire.
Et c'est quelque chose qui se discute ou pas ?
C'est-à-dire ?
Ben, est-ce que ça étonne ceux qui y sont ? Ça étonne la communauté enseignante ? Ou bien éventuellement on envisage de se dire ben, ce serait bien qu'il y ait des enseignants ? Ou ça questionne pas ? Parce que là, visiblement, ça questionne.
Oui, oui. Voilà. C'est pas ce qu'il doit être fait, hein. C'est ce qui a été fait, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait ce choix-là, collectivement. Ouais, c'est le prof référent, quoi. Après, ponctuellement, ils peuvent inviter des enseignants pour aborder des cas particuliers d'élèves. Quand ça se passe, les enseignants participent pas à toute la réunion hebdomadaire, mais viennent discuter du cas particulier. C'est le mode de fonctionnement qu'ils ont choisi. Il est discutable. C'est-à-dire que il n'y a pas de dispositif qui soit institué et qui rende cette exclusion des enseignants obligatoire, quoi. Après, on peut prendre des décisions différentes. Enfin, je pense que c'est une position qui est discutable.
Là, il y a peut-être un autre élément.
Alors, nous, dans notre point élève, on s'est heurté à la chose suivante, c'est que si on veut que tous les acteurs qui sont derrière vous soient présents ensemble sur un moment fixe dans leurs agendas, et on a calé ça sur du temps scolaire. Par contre, nous, on a fait le choix d'inviter le professeur principal de certains élèves de façon ponctuelle sur certains points élèves, où à ce moment-là, le chef d'établissement prend la responsabilité d'autoriser l'enseignant à ne pas assurer son heure et demie de cours, mais on le fait à l'invitation. En fonction des élèves dont on prévoit d'évoquer une situation potentiellement en décrochage.
Tout à fait, ouais. Après, les raisons qui ont motivé ce choix aussi, c'était d'essayer de sortir du contexte fermé de la classe ou du caractère disciplinaire. C'est-à-dire que là, finalement, on parle au moins autant de l'individu que de l'élève. Et si on met un petit peu plus en avant peut-être la présence d'un personnel enseignant, on tend à réorienter un petit peu plus les discussions sur ce qui se passe dans la classe plus que tout ce qui peut se passer en dehors de la classe, quoi. Donc ce sont les raisons qui ont motivé ce choix-là. Encore une fois, hein, c'est pas un choix qui est arrêté, c'est pas, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Simplement, en fonction des acteurs que l'on réunit pour discuter de situations, on influence, on oriente la discussion dans un sens ou dans un autre. Donc si on veut s'affranchir des disciplines d'enseignement scolaire, si on veut se concentrer sur l'individu, ils essaient de promouvoir ce regard holistique de l'élève. Et dernière peut-être précision, c'est la faisabilité de pouvoir discuter. C'est-à-dire que là, il y a déjà une dizaine d'acteurs autour de la table. Si on en rajoute encore quelques-uns, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix aussi d'exclusion d'autres personnels, hein, pour pouvoir avoir un groupe viable qui puisse fonctionner sur un temps de réunion d'1h30.
Oui, la préoccupation des enseignants, c'est quand même une grande réactivité. Je crois que c'est aussi c'est très important, quoi, puisqu'on détecte, et souvent les enseignants se plaignent, les équipes se plaignent, oui, bon, on a détecté, et le décrochage perdure, et les difficultés perdurent, et les irrégularités perdurent aussi. Donc, est-ce que... Non. Je souscris tout à fait à tout ça, là. Les cellules de veille ressemblent un peu à ce dispositif, hein, voilà. Mais j'ai remarqué que les cellules de veille se mettent en mouvement une fois par mois, ce qui est déjà lourd compte tenu des équipes qui se réunissent déjà beaucoup, et ça fait beaucoup de monde à rassembler en même temps. Je pense que c'est encore trop long pour réagir sur un élève décrocheur. Je pense qu'il y a des moyens. Bon, donc, moi, mon travail, ça a été mon souci a été de faire un dispositif qui ne soit pas chronophage, qui ait une très grande réactivité. Et pour ça, je pense que sur une formation, sur quelques jours avec les enseignants, on s'est bien mis en place sur les enjeux, on n'a plus besoin de se revoir sur le problème du décrochage scolaire. Il est multifactoriel, on ne connaît pas les origines, on peut les envisager. Pour autant, les difficultés, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une longue construction, c'est une histoire. On n'a donc pas d'impact immédiat dessus. Pourtant, il faut travailler. Donc, l'idée du raccrochage, c'est comment le jeune peut travailler malgré sa difficulté. Donc, un accompagnement est nécessaire, certes, et il faut travailler, je dirais, en amont du décrochage. Et mon souci a été de travailler sur un dispositif institutionnel qui soit prêt à réagir très rapidement, dont les enseignants sentent qu'il y a un outil dont on peut se saisir. D'une part très rapidement, ce qui est rassurant pour les enseignants et motivant, et d'autre part, comme il est institutionnel, il a de la lisibilité pour le jeune qui voit dans l'établissement une capacité de pouvoir se raccrocher, et surtout pour la famille, parce que le problème de tous ces dispositifs finalement, c'est la lisibilité du jeune. Qu'est-ce qu'il va y voir? Est-ce qu'il a alors le sentiment de s'engager dans quelque chose qui va lui permettre de basculer? Est-ce que c'est suffisamment original? Voilà, c'est tout ouais. Difficile.
Mais en, c'est enfin, une problématique, une vraie problématique. Ouais, je rejoins tout à fait le propos sur la réactivité nécessaire. Là, ici, c'est hebdomadaire et pas mensuel. Et pourtant, ça ne répond pas encore, même en étant hebdomadaire, à ce souci de réactivité. Donc, il y a des tricheries par rapport au format établi du dispositif pour pouvoir s'affranchir de cette question de la réactivité.
Donc un choix de pas de professeur là dans le point élève. Après, donc on a compris des comptes rendus de décision. Ouais. Donc est-ce que la communication, elle est juste de ces comptes rendus, ou est-ce qu'il y a une autre forme de communication? Là, je parle de l'articulation après, et de forcément du problème de l'articulation et de la communication des informations avec les acteurs là dans la classe, parce que quand même l'idée ouais. étant quand même que les élèves reviennent dans la classe.
Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs tous ne sortent pas de la classe, hein. C'est-à-dire que certains procédures d'aide, de remédiation se font en parallèle de l'enseignement, dans de l'aide aux devoirs, dans de l'accompagnement des élèves, dans la présence d'un tiers dans la classe, dans un emploi du temps aménagé où l'élève va suivre quelques enseignements avec une autre classe parce que c'est plus adapté à son niveau, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées, et là, les collègues de ce type de dispositif font vraiment preuve d'une grande imagination sur les solutions qu'on peut apporter. Et voilà, sur les objets de communication, il y a deux formes de communication. Il y a une communication officielle par l'intermédiaire d'un cahier qui est en salle des profs, consultable par tous, qui mentionne de qui on a parlé, qu'est-ce qu'on propose en termes de dispositifs d'adaptation. Et puis après, il y a une communication, on va dire, informelle, officieuse, sur le parking du collège, devant la machine à café, quand on passe devant le bureau du CPE, des petits moments comme ça, qui apparaissent déterminants. L'infirmière scolaire m'expliquait dans ce dispositif que le matin, finalement, elle était très contente d'avoir l'infirmerie à l'autre bout du collège par rapport à la porte d'entrée, parce que ça lui permettait de faire, pour reprendre son expression, la tournée des popotes, et donc prendre un petit peu la température de ce qui s'était passé dans les jours qui précèdent avec les élèves. Et finalement, quand elle arrivait à son travail, c'est-à-dire dans son bureau, elle avait déjà glané un grand nombre d'informations, mais dans une communication qui n'est pas officielle. En tout cas, qui n'est pas institutionnalisée, qui n'est pas identifiée dans l'emploi du temps. Mais on peut penser que pour un personnel d'établissement scolaire, un personnel d'éducation, pour un CPE, c'est pareil. Ça fait quand même peut-être un petit peu partie de son métier d'être capable d'aller chercher ce type d'informations.
Oui, moi j'aurais une question par rapport à la problématique pas seulement de l'élève mais de l'individu. Comment est pensée la place ou la relation avec la famille? Donc on est dans les facteurs extrascolaires, il y a un lien.
Ouais, il y a un lien. Dans certains cas, c'est l'assistante sociale, pardon, qui assure ce lien. Dans d'autres cas, ce sont les partenaires éducateurs des associations. qui connaissent les familles, qui peuvent plus facilement finalement aller dans les familles plus que ne peut le faire l'institution scolaire, quoi, hein. C'est-à-dire que rarement les personnels de l'école rencontrent les parents chez eux, et c'est plutôt les parents qui se déplacent dans les murs de l'école. Et là, ici, par ce type de dispositif, c'est-à-dire que les éducateurs se déplacent, sont au quotidien dans le quartier, dans les familles, et donc vont à la rencontre des familles pour pouvoir assurer cette passerelle de communication. Alors, ils se substituent pas à l'école. Par contre, ils jouent le jeu de relais. Et ils permettent de rétablir le contact entre l'école et les familles. Parce que, vous savez, maintenant, avec les téléphones portables, on voit le numéro de téléphone qui s'affiche. Et donc, quand les parents voient le numéro du collège, ils décrochent pas, quoi.